Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphène.
Et bonsoir, bienvenue dans Radio Tranxène, notre petite émission de radio sur Radio Judaïca. Ce soir, je vous amène dans un petit coin d'Alsace, couvert de brouillard, donc ça peut être à peu près partout, hein. Les lampadaires percent au travers d'une lueur particulièrement épaisse. Qu'est-ce qu'il est épais, l'air d'Alsace en ce moment, vous me direz, hein. C'est difficile, hein. Mettez votre écharpe, votre bonnet. On en a marre d'attraper froid, hein. Gardez votre masque, tant qu'à faire, hein, ça tient chaud. En ce moment, les paysages sont tout à fait particuliers, hein. On approche de Hanouka, on approche du marché de Noël. La période de l'année se modifie et il faut penser à se retrouver. C'est important de se retrouver. D'ailleurs, nous, notre petit collectif est toujours là et on a grand plaisir de se retrouver au studio de Judaïca. Nous avons des chroniqueurs, vous les connaissez, Babouchka, La Lentille, Baba Yaga, Le Lutin, La Fée Bleue, Kamikam, récemment rentrée. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre part à l'aventure, nous recherchons toujours des chroniqueurs. Si vous voulez parler de littérature, d'activités associatives ou culturelles, si vous voulez parler de cinéma, que sais-je, pensez à nous envoyer un mail, voilà, sur Radio Judaïca ou sur le mail de Radio Tranxène, radiotranxène@outlook.fr. Eh bien, nous sommes partis pour l'émission.
Radio Tranxène, c'est...
Et nous voilà partis pour l'interview de notre troisième épisode de Radio Tranxène. Aujourd'hui, nous recevons le vice-président de l'AMJAB, l'association du musée judéo-alsacien de Buxwiller, monsieur Jean-Pierre Lambert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous laisser présenter la structure.
Ben, celui de l'AMJAB est une structure des amis du... Alors, il faut dire qui c'est. C'est l'association des amis du musée judéo-alsacien de Buxwiller, qui en fait gère le musée. C'est-à-dire que nous décidons des expositions, nous recueillons les fonds, etc. Donc nous vous assurons vraiment la gestion du musée.
Très bien, donc c'est un musée qui compte vraiment beaucoup dans l'Alsace, dans l'histoire juive d'Alsace. Vous êtes donc dans Buxwiller, le créateur du musée s'appelle Gilbert
Weil.
Il a permis de réhabiliter l'ancienne synagogue qui était, durant la Seconde Guerre mondiale, devenue une usine. Depuis, c'est un haut lieu de la culture juive qui permet de communiquer la mémoire. Vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'action de la mémoire en Alsace ?
Si vous voulez, disons qu'on n'est pas un vrai musée, on est plutôt un écomusée. C'est-à-dire qu'on va tenter de transmettre l'histoire, la vie des Juifs d'Alsace, etc. Plutôt au 19e siècle, là, c'est notre siècle de référence, mais également... Dans la partie histoire, on commence bien sûr au Moyen-Âge, avec l'arrivée des Juifs, et on essaye d'aller jusque, je dirais, avant la dernière guerre mondiale. On parle aussi de la guerre, bien sûr, mais très peu.
Donc il y a un véritable parcours qui raconte toutes les étapes depuis le Moyen-Âge, en partant de la vie de serf jusqu'à une condition de vie humble, pour arriver jusqu'à la condition actuelle. Vous avez un chapitrage, un cheminement dans votre musée.
Oui, alors on a un cheminement, alors j'appelle souvent ça le musée IKEA. On démarre en bas et on a un plan incliné qui va nous amener à travers des petites salles en général, qui vont traiter alors la première de l'histoire, la deuxième de la manière de vivre des Juifs, la troisième des fêtes, la quatrième de la vie quotidienne et de la vie dans la vie, du mariage, ben mitzvah, la cinquième du patrimoine restant, la sixième de l'émancipation, du départ vers Paris, du départ vers les USA. Et on termine, bien sûr, on passe à une toute petite salle, où simplement un espace noir, où on va ressentir la Shoah. Et après avoir ressenti la Shoah, on va arriver dans un espace où on parle du renouveau de la communauté juive, un tout petit peu d'Israël, mais également d'œuvres comme l'Osé, par exemple, et de choses comme ça. Donc je n'ai jamais mesuré la longueur, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet espace de... doit faire 20 mètres sur 15, 300 mètres carrés, sur 15 mètres de haut peut-être, on arrive à mettre un parcours complet. Alors c'est un exploit architectural, mais Gilbert était quand même urbaniste de profession.
Effectivement, ce cheminement est du fait d'architecte. Il y a une vraie scénographie au musée de Buxwiller.
Total. C'est une mise en œuvre, c'est une mise en scénographie. On n'a pas de gravure on a des gravures d'Alphonse Lévy, mais on a aussi des personnages qui représentent les scènes d'Alphonse Lévy. Alors ils sont faits pour le musée sur des dessins de Gilbert, et c'est ils sont faits en une espèce de fil de fer assemblé pour pas que ce soit des personnages sans être des personnages habillés. Et donc on voit un colporteur tirer sa vache, etc. On a aussi des scènes qui sont représentées par, toujours dessinées par Gilbert d'ailleurs, qui ont été faites en céramique.
Il y a donc une vraie modernité, c'est vrai, dans tout ce qui est incarnation par les costumes. Ces sculptures, enfin ces mannequins en fil de fer, donnent un côté très moderne à votre collection. Comment s'est passé ce partenariat avec les artistes contemporains qui ont réalisé ces
photographies ? Si vous voulez, l'affaire a commencé quand Gilbert a récupéré la synagogue. C'est la synagogue de ses parents. Elle devait être rasée pour faire un parking de supermarché.
Une supérette, tout à fait.
Et à la suite de quoi, il a réussi à la faire classer. Bon, il était quand même un homme assez influent sur le plan de l'histoire, il connaissait bien Jacqueline, etc. Donc on l'a fait classer assez rapidement. Et comme personne ne savait quoi en faire, on lui a donné carte blanche pendant 20 ans. Tous les ans, il nous annonçait on pourra le visiter bientôt, et chaque fois, on ne pouvait pas. Ça a duré une vingtaine d'années, je ne sais plus très bien. Et un beau jour, le musée est sorti, il y avait tout. Et je me rappelle, une des premières visites que j'ai faites du musée lui-même, il était vide, et j'ai bien nous expliqué ce qu'il allait faire. On est sorti 3 heures après. Et donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue scénographie, et également du point de vue des idées. C'est une modernité incroyable. Et je crois que quand on est passé là, on a compris ce qu'est le judaïsme alsacien.
Une part très, très importante de notre histoire, car cette communauté est présente depuis si longtemps. Au niveau de l'incarnation, du rapport à la mémoire, de la transmission, aujourd'hui, votre public, comment s'approprie-t-il le musée ? Parce qu'un écomusée, c'est aussi, on a parlé, c'est un cheminement, il y a aussi une part d'appropriation de la mémoire.
Alors, les gens sortent en général transformés, il faut dire ce qui est, ils reviennent. On a beaucoup de gens qui reviennent parce qu'ils sont passés 1h30, ils n'ont pas pu tout lire. Parce que en même temps que c'est une scénographie, on a également des textes sérieux, on n'a pas qu'une... Et donc, ils reviendront. Et je crois qu'il y a une immense tendresse qui se dégage de cette affaire. Et je pense que c'est ça qui les touche.
Je me souviens, André Malraux, quand il parlait de l'inventaire qui avait lieu en Alsace, disait l'importance de connaître et faire connaître pour le plus grand monde. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez un partenariat très... très prolifique avec toutes les associations savantes qui protègent l'histoire et la mémoire alsacienne.
Alors, oui, on est tous ensemble, je dois dire, d'autant plus que depuis, je dirais que c'est peut-être encore plus accentué depuis qu'on est Grand Est, qu'il y a une véritable politique de partenariat des associations, mais c'est vrai que toutes les organisations juives, on est ensemble, hein, que ce soit... ici, que ce soit celles qui sont maintenant localisées aux 15 rue des Juifs, Société d'Histoire, Maison du Judaïsme Rhénan, Itinéraire du Patrimoine Rhénan, Musée de Bouxwiller, on travaille tous ensemble. Et on travaille aussi avec tous les non-juifs qui travaillent avec nous. On travaille avec l'écomusée d'Ungersheim, on a ouvert une maison, on travaille avec Schirmeck, on travaille ce soir Schreib Estofen.
Bien sûr, avec des associations chrétiennes aussi.
Chrétiennes, vous avez actuellement ce qui est extraordinaire, vous avez un tas d'associations chrétiennes qui s'approprient leur synagogue. Les gens de Westhofen soignent la leur, Balbronn aussi. Vous avez vu récemment que Schirmeck a obtenu 100 000 euros, etc. Donc, quelque part, ça nous fait vivre. Hein. C'est le bonheur. Alors, le musée, là-dedans, c'est un petit peu... on emmène les gens voir.
Vous faites honneur à toute la réputation qu'il y a en Alsace avec les sociétés savantes, les sociétés historiques qui continuent à mettre à portée du public, mais aussi à écrire. Parce qu'il me semble que vous faites aussi vos propres recherches.
Alors, nous faisons nos propres recherches. Nous ne publions pas. Hein. Le musée de Bouxwiller ne publie pas. Nous publions également sur le site de Michel Rothet, SDV. Alors maintenant, effectivement, alors ça c'est la Chial qui publie la Société d'Histoire des Israélites d'Alsace-Lorraine. Elle publie maintenant, elle publie directement en informatique. On a trouvé que de faire des bulletins, ça ne servait pas à grand chose. Tirer 1000 exemplaires qui seront perdus au fond de bibliothèque, on préfère mettre tout en ligne.
Et au niveau de l'action de l'association des amis du musée judéo Alsace-Bouxwiller, vous avez, il me semble, permis des fouilles et des réhabilitations du côté de Orfelden.
Alors, on est effectivement, alors, surtout avec Orfelden, mais avec d'autres villes, on est un petit peu leader dans la région. On fait appel à nous quand il y a quelque chose à faire. Et on travaille avec des associations, alors comme Achern, qui s'occupe plutôt de Reichshofen et Niederbronn et environ. On travaille avec Ettendorf, etc. On travaille avec la Société d'Histoire de Orfelden, avec le musée de Orfelden. On travaille avec le musée de Hanau. C'est-à-dire que quelque part, on essaie d'être partout, entre guillemets, et d'aider. Alors après, on en retire quelque chose. On travaille aussi avec Marmoutier, le musée d'Histoire du Patrimoine. Les Marmoutiers. Donc on est vraiment lié à tous ces gens-là et je crois qu'on ne peut pas faire de l'histoire tout seul dans son coin.
Absolument. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire d'exposition comme on veut. Il faut trouver les œuvres, trouver les partenaires. Là, à l'instant, se termine... en fait, la veille, le 14, c'est terminé l'exposition Ernst Benedict.
Oui.
Artiste... dessinateur, écrivain aussi, qui a habité Vienne. Comment avez-vous trouvé les œuvres ?
Alors, c'est assez amusant, mais on travaille beaucoup avec l'association donc, de Valisquet.
Valisquet.
Et qui tourne, qui organise des voyages. Et donc, eux, quand ils vont quelque part, ils visitent les artistes locaux. Puis des fois, ils reviennent, ils disent « Écoute, j'ai vu un tel, est-ce que tu ne voudrais pas le prendre en expo à Strasbourg ?» Et ça nous permet aussi d'avoir une certaine réputation, parce qu'on a fait des peintres roumains, on a eu etc. On a chaque fois les autorités consulaires qui viennent, ou diplomatiques. Donc c'est un donnant-donnant. C'est des expositions qui nous arrivent quasiment clés en main, et c'est des artistes qui sont peu connus en France et qui font des œuvres remarquables. Hans Benedict entre dans ce cadre.
Alors, quel est le bilan de cette exposition qui a duré de juin à actuellement.
Alors, effectivement, elle a duré plus longtemps que d'habitude, parce qu'avec le Covid, etc., on a été coincés. On a eu moins de visiteurs, à peu près moitié moins. Ça, c'était un peu le problème. Alors, on s'est un peu rattrapé sur la fin de la saison, il y en a eu quelques dons. Mais, effectivement, elle a duré longtemps. Alors, faire le bilan d'une expo, on n'en sait rien, parce que l'expo est intégrée, c'est dans le parcours, c'est la dernière salle du parcours du musée. Mais les gens ont été impressionnés. Les gens ont été impressionnés par l'expo.
Le public, au niveau... vous avez un public naturellement de Bouxwiller, vous avez aussi des enfants, des écoles...
On a des enfants, des écoles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on cherche encore à développer. On travaille beaucoup avec Laurence Just, qui est professeur au lycée de Bouxwiller, et qui est également maire et conseillère générale, maintenant, je crois. Donc on travaille beaucoup avec elle. Et on essaye de développer ça. C'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, les enfants, on ne les promène plus, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des assurances, parce que c'est cher, etc. On en a quand même pas mal. Ça fait partie de nos priorités. On essaye de travailler avec le parc, mais malheureusement, on est musée dans le parc. On n'est pas musée du parc. Et la nuance, c'est qu'on n'adhère pas donc à la conservation du parc. Et là, c'est beaucoup plus difficile de travailler comme ça.
L'idée de mettre la culture juive alsacienne à portée de tous, j'imagine que ça passe par des objets. Vous parlez de céramique, de tout plein de petites incarnations qui permettent notamment aux enfants de pouvoir s'approcher au plus près des objets, de les toucher aussi.
On a des séances pour les enfants, pour ça. Mais bon, la plupart des objets sont quand même sous vitrine. Vous savez, le risque dans le musée est énorme. Et pour vous donner un exemple, le musée de Nungersheim, le grand écomusée pour sa maison juive, on a mis, pour les petites choses, que des reproductions. Parce que bon, ça fauche.
Et au niveau de l'actualité de cette fin d'année, j'imagine que vous allez être en repos pour préparer une nouvelle exposition.
Alors, on va se préparer prochaine. Une nouvelle exposition, ça va faire les grands nettoyages. Là, il faut, une fois par an, les adhérents, c'est pas tout d'être membre du bureau, il faut savoir manier la balayette, épousseter, etc.
Avis aux bénévoles.
Là, on a une bonne équipe, c'est Malou Schneider, ancienne conservatrice du musée alsacien, qui dirige ces travaux de nettoyage, de remise en état. Donc, avis aux bénévoles, aux gens qui veulent nous rejoindre, avis aux gens qui veulent nous donner un peu d'argent, parce qu'on a un gros projet qui est de refaire complètement la partie électronique, écran, etc., et électricité. Et ça va être fort cher, mais bon, on est encore en... Dans certains endroits, on a incandescence, ça chauffe, ça consomme du courant, et puis ça tombe de plus en plus souvent en panne. Donc il faut qu'on fasse ça. Donc effectivement, on a des projets devant nous. Bon, on va essayer de les faire.
Alors, par rapport à nos auditeurs, vous avez donc besoin de bénévoles. Comment on peut entrer en contact avec vous ? En passant au musée ?
Je pense qu'on a... Alors le mieux, c'est de passer par le site du judaïsme alsacien de Michel Rothé. On a notre adresse dessus, nous écrire. Je crois que... Parce que alors ils sont tous un peu occupés aussi, un peu comme moi. Et alors, les coups de téléphone, ça passe souvent à l'as. Un petit mail, c'est quand même bien pas pratique.
Et oui. Au niveau de tout ce qui est subvention, vous avez un petit partenariat avec la mairie de Bouxwiller.
Oui, alors...
Mais j'imagine forcément que tous les dons sont les bienvenus.
Ah, tous les dons sont les bienvenus. Il faut dire ce qu'il y a. On est un des musées français qui a le moins de subventions publiques. Avec 4 000 euros pour un chiffre d'affaires de 40 000, on a 10%.
Effectivement, c'est remarquable. Votre organisation repose sur les bénévoles, sur sur un chargé professionnel d'accueil.
Alors, on est une personne à l'accueil, oui, parce qu'on ne peut pas, à dizaines de bénévoles, on ne peut pas être là 35 heures par semaine, on ne peut pas assurer ça. D'autres musées n'ouvriraient que le week-end, c'est le cas par exemple de Marmoutier. Nous, on a fait le choix d'ouvrir toute la semaine parce que accueillir des scolaires, accueillir des jeunes, accueillir des gens qui n'ont et pas seulement des familles.
Oui, c'est là la vocation première.
C'est notre vocation première.
Eh bien, merci profondément d'être venu de nous parler de votre musée qui nous est cher. Je pense qu'on entendra parler rapidement de vous le printemps prochain pour
Je pense qu'on viendra vous présenter l'exposition du printemps prochain et puis on vous présentera peut-être moi-même d'autres projets qui sont en cours.
Voilà, donc on va garder le suspense sur le contenu de la prochaine expo.
Voilà.
Très bien. Merci Jean-Pierre Lambert d'être venu chez Judaïka.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
À bientôt.
Radio Tranxen. C'est...
Eh bien, c'est le moment à présent de partir vers notre chronique culture. Je laisse le micro à la fée bleue. La fée bleue, à toi.
Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la fée bleue adolescente. Celle qui passait ses mercredis après-midi à l'atelier théâtre de son lycée. Parce qu'à cette époque, grâce à ma professeure de français et de théâtre, notre atelier nous proposait régulièrement des soirées théâtrales. Nous avions une liste de pièces de théâtre où nous allions tous ensemble. Et pour éviter de saborder tout notre argent de poche, nous avions un bon plan. La carte à tout voir. Cette carte est accessible de 11 à 25 ans pour les non-étudiants, puisque les étudiants ont leur carte culture. Il faut être résident de l'Eurométropole de Strasbourg. Son achat est de 7 euros pour l'année et elle permet d'avoir accès à des spectacles dans les salles conventionnées à 6 euros, dans certaines séances de cinéma à 5 euros et l'accès gratuit de plusieurs musées de la ville. On peut la demander sur différents lieux, notamment la boutique dédiée qu'il y a place de la cathédrale. J'en ai moi-même bénéficié plusieurs années de ma vie et c'est un véritable avantage. L'offre des spectacles est très riche dans notre capitale de l'Europe et ainsi, les jeunes peuvent en profiter sans se restreindre par rapport à leur budget. Et c'est à ce moment-là que je vous explique les raisons pour lesquelles j'aime aller au théâtre. Parce que vous le savez, je vous raconte souvent mes aventures dans les salles noires. Mais je ne vous ai jamais dit ce qui m'y attire. Autant j'aime le cinéma, les films et tout ce qui peut exister sur les écrans, autant j'adore encore plus le vivant. J'ai des souvenirs merveilleux de pièces, d'expériences théâtrales uniques. Car ce qui rend le théâtre unique, c'est que c'est un art de l'instant. Chaque représentation sera comme aucune autre et nous ne reverrons jamais plus la même chose. Même si je vous ai beaucoup vanté les capacités de l'adaptation numérique due à la situation sanitaire, rien ne vaut pour moi la confrontation au réel d'un spectacle. Face à l'œuvre, nous sommes pris par toutes les dimensions qu'elle nous propose et nous questionne. Depuis de nombreuses années, Strasbourg met donc un point d'honneur à permettre à un maximum de monde d'avoir accès à la culture sur son territoire. Et je ne peux qu'approuver cette intention. N'hésitez donc pas, si vous pouvez être concerné par l'offre, ou vos parents, enfants et amis, partagez l'information pour que nos salles qui viennent de rouvrir puissent faire vivre à nouveau de beaux moments pour chacun, grâce à la carte à tout voir.
La Malle sur Radio Tranxen.
Eh bien, merci la Fée Bleue pour cette chronique. À présent, nous allons passer dans l'univers excentrique, vigoureux et turbulent de notre chère Babouchka pour notre chronique créative dans La Malle. Babouchka, à toi.
Les pois sur les i. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salutations distinguées, irrévérencieuses civilités, courbettes et autres salamalek. Bienvenue à vous. Accordons nos violons et installez-vous. C'est parti. Deux heures du matin, une nuit sans étoiles, fraîcheur et fatigue en sont la définition. Une légère brise pinçante vient balayer le tapis d'automne rouge et jaune, révélant çà et là les nuances de gris du macadam au jour des lampadaires. Lumière orange pâle, essence urbaine qui nous emplit. Les lieux sont teintés d'une étrange ambiguïté, le calme de la nuit, la quiétude d'une ville endormie, auquel se greffe cependant une tension latente, la tension d'une attente. La gare routière, souvent en des lieux reculés, isolés, loin du faste des gares centrales et du clinquant des salons grands voyageurs. Le bus transport des petites gens et reclus au banc de la ville, dans la noirceur crasse du bitume, division spatiale, division sociale. Dans celui aux accents noirs et gris, on s'épie, on se jauge. On essaye de deviner qui partagera le voyage avec nous. Cette famille? Cette personne qui tousse à tout rompre? Ce groupe d'amis hilars? Quels seront nos prochains, prochaines camarades de route? L'esprit divagant aux divers scénarios de voyage, on se surprend alors à pronostiquer les raisons du départ de chacun, les raisons du retour, les professions, les hobbies. On s'invente mentaliste des grands soirs. Dans le froid de la nuit, le carrosse entre en gare, l'ambiguïté s'efface. L'attention seule prend place. Une contraction s'empare de la foule. Les questions fusent dans le vent de gare. Est-ce le nôtre? On se presse, on se bouscule, les gens s'agglutinent sur le minuscule rebord du trottoir, ayant pour seul mantra, entrer en premier pour choisir ma place, comme si la vie en dépendait. Une fois le brouhaha des installations finies, une fois la douteuse sensation de l'assise ressentie, la tension baisse, s'ouvre alors la porte des aventures. Voici s'ouvrir le champ des possibles, des découvertes et de la rencontre. Au départ de l'engin, les haut-parleurs grésillent. Dans un demi-silence éclairé au néon, la voix suave de la libre antenne du chauffeur retentit.
Ladies and gentlemen, welcome on board. Please put your seat belt and keep your mask. Thank you for your cooperation and have a good trip.
Sous l'impulsion de la prestation vocale impromptue du chauffeur, une nouvelle tension affleure alors la population du bus, une tension sexuelle, qui comme une vague s'empare des corps et se répand. Chaque annonce deviendra un moment délectable, de quoi embellir cette traversée de nuit et d'Europe. Une fois lancé sur l'asphalte, la chance ou la sélection naturelle vous feront jalouser ces comparses de voyage bien enfoncés dans les bras de Morphée, qui n'a visiblement accordé ses louanges qu'aux autres. Car pour vous, la lumière latente vous perce les paupières, les quelques conversations des noctambules vous focalisent et le ronron du bus ne vous berce aucunement. S'annonce une nuit sans rêve, ponctuée du charme fou de ce chauffeur à voix de velours. Une fois le jour qui point, on débarque essoré de ses péripéties nocturnes, dans un esprit fatigué mais fait de nouvelles perspectives. L'atmosphère n'est guère différente, le même gris, le même sentiment d'être excentré. Lieu de tous les passages, épicentre de carrefour et de diversité, si toutes les gares routières se ressemblent, tous les voyages sont différents.
Radio Tranxène, c'est... Et nous voilà arrivés à la chronique musicale de Radio Tranxène. Donc, comme chaque deux semaines, nous parlons d'un artiste strasbourgeois ou alors alsacien qui fait bouger la scène locale en ce moment. Cette semaine, Max Mülheim. Max Mülheim est un membre du groupe Wise Moron, un super groupe de rock qu'il faut connaître aussi. Alors aujourd'hui, cet artiste solo, je vous en parle parce que tout simplement, il est très prolifique. Il a un son extrêmement mature et je pense que c'est sûr qu'on entendra parler et que vous pourrez le voir en concert les temps qui viennent. Alors Max Mülheim, c'est un auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste, qui touche aussi bien des super arrangements à la voix, des claviers, de la basse, il compose très bien ses batteries, et bien sûr c'est un bon guitariste. Du haut de ses 21 ans, donc très jeune, quoique son son est, je trouve, absolument mature, notamment au niveau du mixage, vous verrez. Il nous emporte en croisière sur une rivière de whisky, traverser une sorte d'univers psychédélique, empreint de mélancolie et de mélodie entraînante. Alors, cette allégorie de la rivière de whisky, ça parle aussi de ses influences rock, absolument 70s et 60s, qui teintent sa musique. Il a beaucoup de choses de très bonnes en fait, références, côté arrangement dans son son, que je trouve génial. Mais par contre, dans le son qu'on écoutera aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. Il trouve que sa signature musicale est imprégnée d'Australie. Il traduit ses différents états d'esprit en chansons qui, justement, nous transportent vers un univers de rock alternatif, indie, folk, parfois même rap et pop. Dans ses compositions, les plus modernes notamment, on ressent des influences qui tirent vers du Ed Sheeran, mais aussi Sticky Fingers, Chris Stapleton ou Mark DeMarco. Il y a quelque chose de super polyvalent dans sa musique. Alors, pour le coup, aujourd'hui, là, on va écouter Start Again, Recommencer Encore, qui est une mélodie teintée de mélancolie, un moment très introspectif, que lui-même, en fait, appelle comme une mélodie bleutée, quelque chose, une mélodie qu'on peut très bien se réciter en tête pendant qu'on regarde une nuit étoilée, un ciel bleu. Il l'a écrit dans un moment, je pense, d'introspection, de doute, et pour mieux repartir et chasser ses démons, il l'a intitulé « Start Again » et réfléchit sur tout ce qu'il peut laisser de côté pour aller de l'avant. Vous retrouverez une basse très moderne, absolument bien réglée. Vous retrouverez des chœurs avec des voix qui appellent à quelque chose d'absolument spatial. En tout cas, c'est quelque chose qui j'espère, pourra vous amener vers un peu d'altitude dans ce monde fort terre-à-terre. Max Mülheim nous conseillait deux modes pour écouter cette chanson. Soit posé en haut d'un toit, regarder le ciel, tout simplement en se recueillant, ou alors sur l'autoroute, dans votre voiture, parce que sur Judaïka, je sais très bien que vous écoutez souvent notre émission dans votre voiture, en rentrant le dimanche soir ou le mercredi. Alors écoutez-la sur l'autoroute, concentrez-vous, hein. Ne dépassez pas les 90 km/h de limitation sur Strasbourg. Mais profitez de ce moment, parce que le morceau est très dynamique, et chargé de beaucoup d'énergie. Il vous amène à recommencer, en tout cas à poursuivre ce renouvellement perpétuel que nous avons dans nos vies. Encore une fois, de très belles lyrics, très belles paroles de Max Mülheim. Je vais vous laisser avec ses actualités. Il a sorti très récemment, fin octobre, un EP avec trois morceaux. L'EP s'appelle The Beginning, le commencement. Il est constitué de trois morceaux pop-rap, à savoir Happiness Starts on Good Sounds, My Spot et Grudge. Grudge étant la compo qu'il a retravaillée et réenregistrée, notamment si vous le connaissez déjà, écoutez The Grudge. Vous pourrez aussi trouver un clip du morceau My Spot, dispo sur sa chaîne YouTube. Et puis en bas, si vous êtes sur le site de Judaïka, vous pourrez trouver juste en bas de nombreux liens pour aller le suivre. Du coup, on écoute Max Mülheim, le morceau Start Again.
Back. And if I had
Eh bien, merci d'avoir suivi Radio Tranxen. Nous sommes diffusés dimanche à 19h et en rediffusion mercredi à 21h. J'espère que le morceau de Max Mülheim vous a plu. En tout cas, nous, il nous a permis vraiment de penser à autre chose dans nos après-midi d'automne, bien froid, des brouillards, tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve dans 2 semaines.
Radio Tranxen, Strasbourg, sans acouphènes.